Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la création. De la création dans le Coran, nous parlons de la figure d'Adam, sa place, son histoire, son importance, avec Jacqueline Chabi. Jacqueline Chabi, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir de Bretagne nous édifier par vos propos qui se trouvent dans votre dernier ouvrage « On a perdu Adam ». Il y aura une question sur cette perte d'Adam. Est-il le premier homme ou pas d'un point de vue coranique? Vous l'avez édité au Seuil. Jacqueline Chabi, vous êtes agrégée d'arabe et doctoresse lettres et vous êtes professeur honoraire des universités. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont « Figure biblique ». Et c'est parce que vous n'avez pas parlé d'Adam dans « Figure biblique » que vous l'avez rattrapé ici. Mais aussi, vous avez parlé du Seigneur des tribus, l'islam de Mahomet, les trois piliers de l'islam, avec cette lecture anthropologique du Coran. Comment se fait-il que Adam vous a échappé, si je puis dire, dans les figures bibliques?
Eh bien, effectivement, en 2008, donc j'ai travaillé un petit peu quelques années avant, j'ai travaillé sur les principales figures bibliques du Coran, à savoir Moïse, Abraham, Noé, et puis des figures un peu plus secondaires dans le Coran, David, Salomon, Job, etc. Mais je ne m'étais absolument pas aperçu que je n'avais pas parlé d'Adam. Alors c'est tout de même curieux, étant donné la place que Adam occupe dans les religions monothéistes. Et je dois dire que c'est un petit peu par hasard que, en faisant une communication dans un colloque au Collège de France, que je me suis aperçu que Adam n'était pas là. Alors je me suis posé la question et j'ai cherché pourquoi. Et en fait, je me suis aperçu que dans le Coran, il n'y a pas de mythe de premier homme. Alors ça a été un grand étonnement. Pourquoi n'y a-t-il pas de mythe de premier homme dans ce qui est une des trois grandes religions monothéistes, alors qu'on nous dit partout que ces religions sont sœurs et que les principaux thèmes, les principales thématiques qu'il y a dans ces religions se trouvent quasiment à égalité partout.
Ça l'est peut-être dans l'historiographie classique, dans une construction un peu tardive, mais ça ne l'est pas dans la référence première qu'est le Coran.
Alors effectivement, je me suis aperçu que Adam est toujours notre père à tous dans la tradition musulmane de l'historiographie, de l'exégèse, des légendes merveilleuses qu'on nous raconte, les légendes sacrées. Mais dans le Coran, on cherche en vain la présence d'Adam comme premier homme. Pourtant, il est là. Mais quel rôle joue-t-il et comment se fait-il qu'il m'ait échappé? Eh bien, je me suis aperçu que, alors que Moïse en particulier est une figure à laquelle le prophète incompris de la Mecque pouvait s'identifier, on ne voit pas comment il aurait pu s'identifier à la figure d'Adam, parce que Adam, dans le Coran, c'est un homme failli. C'est un homme qui a trahi le contrat que Dieu avait conclu avec lui. Et donc, un homme en difficulté, comme l'était Mahomet au début de sa prédication, ne pouvait pas s'adapter, ne pouvait pas se calquer sur un homme en échec.
Cette faillite ou cette trahison relatée globalement dans la sourate 20, la sourate Taha, elle se résume en quoi? C'est le fameux pacte pré-éternel de reconnaître la seigneurie divine en contrepartie sans manger de l'arbre dit de vie ou parce qu'il a suivi diable, le grand Satan, Shaitan.
En fait, la figure d'Adam apparaît de façon accessoire dans le Coran. Et surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'Adam n'est pas lié à la création. On parlera tout à l'heure de la thématique de la création dans le Coran. Et la création se passe complètement d'Adam. Adam apparaît comment dans le Coran? Il apparaît d'abord, non pas dans un jardin, mais en relation avec Iblis. Iblis, c'est un nom emprunté, ça vient du diabolos évidemment, et dans le Coran, il va être assimilé au shaitan, qui est le diable, l'ennemi des hommes, celui qui les trompe. Alors, il y a une histoire, alors ça c'est pas dans la sourate 20, c'est dans une autre sourate, dans les 37 ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, mais c'est facile à retrouver, où on ne sait pas pourquoi un jour, dans l'assemblée des dieux, le créateur décide de créer un homme de terre. On ne nous dit pas pourquoi, et ça n'est pas lié à la création primordiale. Et il demande aux anges qui sont là de se prosterner devant cet homme de terre. Et dans deux sourates de la période mécoise, cet homme de terre n'a pas de nom. Il est simplement appelé Bachar, l'humain, l'homme. Oui. Bon. Et voilà que tous les anges se prosternent, sauf un, sauf Iblis, qui refuse.
Il s'enfle d'orgueil.
Il s'enfle d'orgueil et il est chassé de l'entourage divin. Et quel est son argument pour refuser de se prosterner devant l'homme de terre qui, dans un premier temps, n'a pas de nom, il recevra ce nom dans des sourates un peu postérieures. Eh bien, l'argument, c'est tu l'as créé de terre, alors pas n'importe quelle terre, de terre cuite, de terre à poterie. C'est important de noter ça parce que dans la thématique générale de la création, l'homme n'est pas créé de la terre à poterie, il est créé d'un autre mot, de la poussière ou de l'eau. Bon. Donc, il a créé un homme de terre à poterie et Iblis dit à Dieu, mais moi je suis créé de feu. Alors, le feu, il faut faire attention, on est en Arabie. En Arabie, c'est pas le feu de flamme. En Arabie, le feu, c'est deux choses. C'est soit le feu du soleil, soit le feu du vent de sable, le feu du simoun. Et Iblis va être assimilé à un être créé du feu du simoun. Or, le Coran nous dit par ailleurs que ce sont les djinns qui sont créés du feu du simoun. Donc, Iblis, l'ange déchu, est assimilé à un djinn. Donc, c'est de cette manière que pour la première fois, on entend parler d'Adam. Mais Adam ne joue aucun rôle, pas celui de premier homme. Donc, c'est tout à fait étonnant. Il est là de façon complètement accessoire. Par contre, en ce qui concerne la sourate 20, là, on a ce passage où on a l'homme de terre qui est dans un jardin. C'est pas le paradis terrestre. Il n'y a pas de paradis terrestre dans le Coran. Il est là bien tranquille avec sa femme qui n'est pas nommée. Ève ne figure pas dans le Coran, mais un homme établi en Arabie, c'est un homme qui a une famille, donc il a forcément une femme. Donc il est là avec sa femme, et Dieu passe un pacte avec lui, on ne sait pas pourquoi, en lui disant « tu ne mangeras pas de tel arbre », et il lui dit aussi « tu as un ennemi qui est le diable, et donc ne l'écoute pas ». Donc en fait, on est dans le cadre de ce que j'appellerais la société tribale. Et dans la société tribale, quand on est un allié protecteur, ce qui est le rôle du divin dans le Coran, eh bien, on avertit ces créatures des dangers qu'elles courent.
Oui, il y a deux choses. La première, c'est que cette Ève qui n'est pas nommée n'est pas non plus présentée comme tentée, tentatrice à son tour, et donc elle n'est pas à l'origine de l'éviction d'Adam, de ce lieu qui est paradisiaque, mais qui n'est pas un paradis sur terre. Ça, c'est une première spécificité. Et la seconde, pour revenir à l'acte de rébellion première, c'est un péché d'orgueil, disent les commentateurs, simplement parce que l'origine ignée ou ignitive ou de feu du simoun, comme vous l'avez dit, de Satan, est meilleur que l'origine de glaise ou de poterie d'Adam. Et donc, il y a déjà là un argument, disons, de supériorité dû à une origine.
Alors, en ce qui concerne Iblis, le diable, eh bien, il appartient à l'une des deux catégories d'êtres qui ont été créés. Le Coran nous dit qu'il y a deux catégories d'êtres. Il y a les djinns et les ins. Les ins, ce sont les humains. Et la différence entre les deux, on la retrouve répercutée dans la vie en Arabie. Donc il faut toujours revenir au terrain pour comprendre ces choses-là. Il y a ceux qui vivent dans le désert et qui n'ont pas besoin d'eau. Donc qui vivent dans la chaleur. Et ceux qui sont représentés de cette façon-là, ce sont les djinns. Et les hommes, par contre, eux, ont besoin de fraîcheur, d'ombre. Ils ne peuvent pas survivre dans le désert sans ombre. On dit à quelqu'un, quand on lui dit « ton ombre a été exposée au soleil montant au zénith d'Aha Dhilluhu », quand on lui dit cela, ça veut dire « tu es mort ».
Oui, est-ce que, un mot, après je souhaite avoir votre réponse sur Ève, la non-nommée, dans le Coran, mais est-ce que pour les djinns, tout simplement tenant compte des circonstances de vie des Arabes dans cette péninsule par un temps caniculaire et l'aridité du désert aidant, c'est une sorte de projection parce que l'homme a peur. La nuit, il entend des bruits, il y a les ghouls, les farfadets, les djinns qui n'ont pas besoin d'eau alors que lui, il en est assujetti. Si c'était de nos jours, peut-être qu'il aurait fait une projection sur d'autres créatures, d'autres idées.
Je pense que le terrain fabrique les imaginaires. Le mode de vie et le mode de vie d'Arabie, la chance qu'on a, puisque en ce qui concerne l'époque du Coran, on n'a pas de documents classiques, on n'a pas de documents d'archives, on n'a pas de monuments. Par contre, on a un paysage qui est très particulier, très spécifique, où la vie est extrêmement difficile. Ce sont les conditions d'aridité et de chaleur. Et on a une société qui s'adapte à cette aridité, à ce cadre de vie. Et c'est d'autant plus vrai pour les Mécois que la Mecque n'est pas une oasis. La Mecque vit grâce à un point d'eau qu'on a découvert par hasard, et j'oserais dire qu'Abraham n'y est pour rien, et qui est devenu un lieu sacré païen. Et donc les Mécois, quand ils veulent ne serait-ce que s'alimenter, sont obligés de sortir de leur ville, et à l'époque, il n'y avait pas de belles autoroutes comme aujourd'hui qui conduisent dans la montagne. On allait à dos de chameau à 1800 mètres d'altitude, à 70 km de la Mecque, dans la ville de Taïf, pour s'approvisionner. Donc les Mécois étaient en fait, bien que sédentaires, étaient soumis aux conditions du désert. Ils étaient dépendants des convois et des bédouins qui guidaient ces convois. Donc, ils avaient un imaginaire qui s'adaptait à ces conditions particulièrement difficiles. Ils étaient dans des conditions de pénurie et de survie.
Et pourtant, il y a une partie des Mécois, ceux qui se sont enrichis, qui se sont sédentarisés, qui habitent quelques demeures cossues et qui s'habillent de brocart et avec des ustensiles en or.
Alors ça, on n'en sait rien. Je ne me hasarderai pas à raconter ce genre de choses parce que en face de nous, on n'a pas de sources d'époque. On a des sources externes, mais qui ne sont pas présentes sur place et que l'on interpelle souvent, je pense, à tort parce qu'elles sont fort lointaines. Et on a les sources postérieures de l'histoire sacrée qui, effectivement, vont mettre en scène un luxe tout à fait étonnant dans cette partie de l'Arabie, puisque si on parle de soieries, ce qu'il faut savoir au 7e siècle, c'est que les soieries, elles venaient d'où ? Elle ne venait plus de Chine, puisque le tissage de la soie a été inventé en Chine et qu'il était transporté vers l'ouest par la route de la soie. Elle venait d'Iran. Mais entre l'Iran et la Mecque, il y a quand même à peu près 1500 kilomètres. Donc l'imaginaire du luxe et de la soie ne pouvait pas être présent, à mon avis, sur place. Ce sont les histoires postérieures qui vont mettre ça en scène. Et surtout, le Coran va utiliser ce luxe inouï pour un Mécois dans ses représentations du paradis.
Et alors là, indépendamment des lectures confessantes, de l'origine révélée ou inspirée du texte coranique, vous pensez à une construction postérieure datant au mieux du début de l'ère abbasside. Donc on est 8e siècle.
Alors, en ce qui concerne l'histoire sacrée, effectivement, je ne pense pas que, à la suite de la sortie des tribus d'Arabie, que je ne qualifierais certainement pas de conquête musulmane, à la suite de la sortie des tribus d'Arabie, on est resté encore pendant un bon siècle dans une mentalité tribale. Les Omeyyades n'ont pas eu d'historiographe. Les Omeyyades, leur plaisir, en dehors du fait de contrôler leur empire et de maintenir de l'ordre dans leur empire, ce qui était facile puisqu'ils n'exerçaient aucune pression religieuse sur leurs sujets et que la conversion était impossible à moins de s'affilier à une tribu, et les tribus n'avaient pas envie d'avoir des affiliés qui arrivent de partout, eh bien les Omeyyades, leurs plaisirs étaient encore des plaisirs tribaux, des plaisirs bédouins. Leur plaisir, c'était quasiment d'aller planter une tente dans le désert et d'écouter les poètes. Donc l'imaginaire qui se fabrique ensuite dans l'histoire sacrée, je dirais que c'est largement l'imaginaire des convertis. Et à ce moment-là, on sera sorti du modèle tribal, on sera sorti de la société d'origine. Donc il ne faut surtout pas confondre les corpus quand on fait de l'histoire, parce que sinon on est dans l'anachronisme et l'extrapolation. Le corpus coranique relève de la période tribale.
Oui, mais ce qui est important avec vous, Jacqueline Chabi, c'est de remettre les choses, après investigation de l'historienne que vous êtes, par rapport à ce qui nous est raconté, comme quoi les Omeyyades, ayant copié le modèle byzantin, voulant être des monarques, sont dans des cours et ont adopté le modèle du cabinet, le diwan, et voilà que les califes Omeyyades, qui vont être copiés aussi par les Abbassides plus tard, sont dans un faste luxueux et qui n'est plus celui de la tribu.
Alors, les Omeyyades, je dirais qu'ils ont deux visages. Ils vivent dans des palais et je dirais que les Omeyyades utilisent... Les Omeyyades n'ont rien cassé. Les conquêtes musulmanes... Alors, je dis les conquêtes musulmanes et j'ai tort. Les conquêtes tribales ont très peu, n'ont pas massacré et n'ont pas cassé ni la socialité des sociétés extérieures, ni le modèle économique des sociétés extérieures, et les Omeyyades ont eu à leur service les anciens fonctionnaires des empires qu'ils avaient remplacés. Les fonctionnaires byzantins ont été à Damas dans l'appareil administratif des Omeyyades sans du tout se convertir. On peut penser par exemple à Saint Jean Damascène, dont le grand-père, le père et lui-même, avant qu'il ne se consacre à la religion, ont été des fonctionnaires fiscaux à Damas des Omeyyades. Donc les Omeyyades ont eu cet aspect impérial de gestionnaire, mais d'un autre côté, je dirais dans leur plaisir privé, même s'ils vivaient dans le luxe, s'ils ont construit des villas du désert, à la manière des villas romaines du désert, dans le désert de Syrie, ont gardé malgré tout une mentalité tribale. Quand il y a une mutation, c'était des Mekwas d'origine, il ne faut pas l'oublier. Et le premier calife Omeyyade a été contemporain de Muhammad. Et donc, on ne change pas de mentalité aussi facilement que cela. La sociologie prend du temps pour muter. Et ce qui a provoqué une mutation radicale, c'est quand, en 750, les Omeyyades ont été renversés dans la violence par d'autres... Une autre famille d'origine mécoise apparentée au prophète, les Abbassides, apparentée à un oncle, mais qui, eux, ont rompu avec les tribus et se sont appuyés sur des élites extérieures. Et c'est à ce moment-là que les conversions ont pu commencer et que le grand melting pot, la grande interculturalité a pu commencer à se mettre en place et où, je dirais, la Bible a réinvesti le Coran en lui redonnant des significations qui étaient celles d'origine, alors que le Coran avait débiblisé les histoires.
Oui, un mot peut-être sur les Abbassides, qui eux ont rompu avec le modèle tribal, simplement parce que eux-mêmes, grâce ou à cause des épousailles et des alliances, et leur mère, où ils ont épousé des femmes qui n'étaient pas arabes elles-mêmes.
Vous avez tout à fait raison.
C'est ça l'idée.
Oui. Le dernier calife Omeyyade, le seul, n'était pas le fils d'une femme de tribu. Tous les califes Omeyyades ont été les fils de femmes de tribu et de les mariages entraient dans le jeu politique entre les tribus du Nord, les tribus du Sud. Donc le modèle politique interne au califat omeyyade était encore dans l'optique complètement tribale.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui de la création dans le Coran, de la figure adamique toujours dans le Coran. Mais la discussion avec Jacqueline Chabi va tout azimut et c'est pour notre grand intérêt et plaisir. Jacqueline Chabi est agrégée d'arabe et doctoresse lettres, professeur honoraire des universités et auteur de nombreux ouvrages consacré à cette période de la péninsule arabique et au moment de la réception de la révélation coranique, ce texte révélé ou inspiré aux prophètes de l'islam. Jacqueline Chabi, est-ce que vous pouvez me dire, c'est pas que j'y tienne particulièrement, à propos de Ève qui n'est pas nommée, pourquoi, dès lors qu'elle n'est pas nommée, qu'elle n'est pas tentée, tentatrice à son tour, le statut était plus ou moins infériorisant de la femme, considérant qu'elle est la cause du malheur de l'homme? On trouve ça chez Pandora, chez Pandore, et on trouve ça chez Ève. Pourtant, dans la péninsule arabique et dans le récit, l'écrit coranique, elle ne joue pas ce rôle.
Elle ne joue pas ce rôle dans l'histoire d'Adam dans le jardin. Adam qui va faillir, qui va pas écouter les avertissements de son Dieu protecteur, de son allié divin, parce que, elle est la famille d'Adam. Et la famille d'Adam n'a pas de rôle politique dans la société de cette époque. C'est-à-dire qu'il faut pas faire de féminisme avant la lettre.
Bien sûr.
Dans la société de cette époque, la femme avait un rôle qu'on peut ne pas apprécier aujourd'hui, mais on n'est pas aujourd'hui, on est au 7e siècle en Arabie. La femme était une procréatrice. Elle était protégée en tant que telle et c'était vraiment un trésor, je dirais, pour les hommes que d'avoir des femmes qui produisent des fils, parce que les fils étaient plus en danger que les filles à cette époque, puisque les fils étaient ceux qui défendaient chaque tribu étant en charge de sa propre défense. Donc la femme, elle est là, dans un environnement optimal avec Adam, mais elle n'a pas à jouer de rôle, elle n'a pas à prendre de décision. Et c'est Adam qui va être le porte-parole de sa famille, c'est Adam qui agit au nom des siens. Il faut bien voir à l'époque qu'un homme n'agit pas seul. Il agit toujours pour son groupe de parenté, pour défendre les intérêts de son groupe de parenté. Et donc on est là dans une faille très importante avec le texte biblique, puisque la faute ne retombe pas sur la femme. La faute retombe sur Adam qui n'a pas écouté les avertissements. Mais ce qui est intéressant, donc la femme n'est pas en cause. Et cette théologie de la faute n'existe pas dans le Coran. On en trouve un exemple dans ce qui arrive à Adam une fois qu'il est chassé du jardin. Que lui arrive-t-il? On s'imagine qu'il est face à un dieu en colère, à un dieu qui va l'abandonner dans un espace terrifiant. Eh bien, pas du tout. Et j'ai moi-même été fort étonnée de découvrir cela. Quand Adam descend du jardin avec sa femme, donc avec sa famille, que lui arrive-t-il ? Eh bien, Dieu lui dit « Maintenant, tu es dans un monde dangereux, certes, mais je suis bienveillant et je vais te montrer la bonne voie. » Et là, on retrouve cette thématique qui est tellement importante dans la société de l'Arabie du 7e siècle, qui est la thématique de la guidance. Un homme ne peut survivre que s'il est guidé. Et cette fonction, c'est une fonction tribale qui est antérieure à la révélation coranique, mais que le Dieu créateur s'approprie de façon massive, de façon majeure, et en disant aux hommes, c'est moi qui suis votre guide.
Jacqueline Chabi, donc aussi étonnant que ça puisse l'être, le Coran a débiblisé en quelque sorte le récit à la fois de la création, toute une anthropologie sainte ou sacrée ou présentée comme ça dans les écrits, et que cette récupération est venue avec les convertis, les prosélytes, puisque le prosélyte est celui qui est gagné à une cause et n'est pas celui qui fait de la propagande pour cette même cause. Et donc la construction venue tardivement, c'est elle qui a arrimé l'histoire dite sacrée ou sainte de la cosmogonie ou de l'anthropologie adamique. Ça n'est venu qu'après coup.
Alors ça n'est venu qu'après coup, et j'oserais dire que ce sont les convertis qui ont introduit leur mémoire et leur culture religieuse dans leur lecture du Coran. Mais il ne faut pas prendre ça en mauvaise part, je dirais que c'est tout à fait naturel que à chaque époque, une collectivité instruite religieusement, qui a une mémoire qui lui vient de loin, applique cette mémoire à ce qu'elle découvre et adapte cette mémoire. Donc il ne faut pas prendre ça du tout en mauvaise part, c'est une chose attendue que des gens qui ont une mémoire biblique, qui sont d'origine biblique, et je pense notamment au christianisme nestorien, qui était orphelin de l'Empire, puisque le nestorianisme était schismatique par rapport à l'Empire, beaucoup de nestoriens se sont convertis et ont amené avec eux, ils étaient réfugiés dans la partie orientale de l'Empire, dans la partie ancienne iranienne de l'Empire, et donc parmi les convertis chrétiens qui sont entrés en islam au 9e, au 10e siècle, il y avait beaucoup de nestoriens. Et ces hommes ont amené avec eux leur mémoire religieuse. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils vivaient cette mémoire religieuse. Ils ont investi le Coran de cette mémoire religieuse.
Et du coup, l'exégèse, cette fois-ci mystique, fait dire à Dieu qu'il était seul, il aurait connu un pathos, à supposer qu'on puisse parler comme ça, à l'idée d'être seul, et subitement, et d'ailleurs on ne sait pour quelle raison, il a décidé de créer un autre, et l'autre serait cet Adam dans ce lieu, on ne sait pas lequel, mais considéré comme un lieu paradisiaque.
Alors, ça c'est totalement étranger au Coran. J'oserais dire qu'Adam vient comme les cheveux sur la soupe dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran, la thématique de la création dans le Coran, peut tout à fait se passer d'Adam. Donc c'est un élément complètement accessoire dans le Coran. La création dans le Coran, c'est pas du tout, n'est pas du tout liée à Adam. La création dans le Coran, elle est liée aux besoins fonctionnels de la société du Coran au 7e siècle. Et quels étaient les besoins de la société du 7e siècle, c'était d'avoir un allié divin efficace qui assure la survie des tribus dans les pires conditions qui soient et qui sauve les tribus de la famine, qui sauve les tribus du malheur, qui sauve les tribus de la guerre et qui soit toujours là à l'appui des hommes. Et donc, la création dans le Coran, je dirais que ça n'est pas une création primordiale. Ça n'est pas une création d'un dieu qui fabrique l'environnement et qui fabrique l'homme et ensuite qui va se reposer. C'est pas du tout ça. Le créateur dans le Coran, c'est un créateur qui crée un homme fonctionnel. Alors,
je vous dirais que le premier passage créatif dans le Coran, il est tout à fait étonnant. Il est au début de la sourate 87, qui est une sourate de période mécoise ancienne. Et qu'est-ce qui nous est dit dans cette sourate? Il nous est dit que le Créateur va façonner un homme qui est fonctionnel, qui est bien conformé, et que va-t-il créer à côté de lui? Il va créer le pâturage. Alors vous allez me dire, le pâturage, qu'est-ce que vient faire le pâturage à côté de l'homme? Eh bien, le pâturage, c'est le pâturage temporaire du désert, c'est le pâturage des chameaux. Car dans le désert, quand on vit en Normandie, il y a de l'herbe tout le temps et partout. Quand on vit en Arabie, les herbages que mangent les chameaux sont des herbages qui se dessèchent au soleil. Ils vivent avec la pluie. On attend la pluie pour faire pousser le pâturage, et c'est donc Dieu qui va faire tomber la pluie, qui va faire pousser le pâturage, pour que les hommes aient à leur disposition des chameaux qui donnent du lait, qui donnent de la viande, qui donnent du poil pour tisser les tentes. Et on peut sans doute penser que si l'islam était né à Médine, qui était une grande oasis agricole, on aurait une autre image de la création dans le Coran. Mais la Mecque n'est pas une cité agricole.
Et elle n'est pas une oasis non plus. Vous avez fait allusion sûrement à ce passage du Coran qui dit « Ô homme, qu'est-ce qui t'a fourvoyé en ton Seigneur? Sous quelque forme que ce fût, il t'aurait créé. » Mais il est très elliptique quant à la création de l'homme, de l'homme originel en tout cas. À propos de la création, j'ai cru comprendre que d'emblée, le décor est là. Il y a les montagnes, il y a un ciel, après il y aura des cieux. C'est quoi? Parce qu'il y a d'abord à la fois une vision apocalyptique et puis de faire peur ou de faire croire que ces montagnes-là vont s'affaisser. Pas non comme des papillons, parce que vous avez rattrapé le coup, c'est comme des petits camelons. Pourquoi est-ce qu'il y a une présentation apocalyptique qui va de pair avec la cosmogonie?
Alors, il y a deux choses. En fait, aussi bien la vision apocalyptique que la vision créative sont des notions bibliques. Ça, on est bien d'accord avec ça. Mais... la question, c'est de savoir ce que le Coran en fait. C'est-à-dire ce que le Coran en fait, ce dont a besoin le Coran dans son argumentation par rapport à son milieu et à ses attentes. Donc, au départ, on peut dire que dans le Coran, il y a une couche initiale où il n'y a aucun biblisme, ni apocalyptique, ni eschatologie, ni création. Simplement, ce qui est demandé, c'est de rendre le culte au Seigneur du puits mécois, et d'être solidaire dans la tribu. Donc, en fait, c'est une proposition de réforme. Cette proposition de réforme semble avoir été rejetée violemment. Et c'est à ce moment-là que, dans un premier temps, apparaît la thématique apocalyptique de l'eschatologie, c'est-à-dire de la destruction du monde, mais attention, pas du monde entier, du monde de la tribu. Ce qui est dit aux Mécois, c'est que si vous continuez comme ça, à mal vous comporter, votre tribu va disparaître, les montagnes vont vous tomber sur la tête, elles vont se réduire en poudre. Donc il y a des visions terrifiantes. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Arabie occidentale, on est dans une zone volcanique. Il y a des volcans absolument partout. Et il y a eu des éruptions jusqu'au XIIIe siècle.
Oui, en 1256.
1256, oui. Juste avant la période mongole.
Oui. Bon. Puisque donc, les Mongols, c'est 1258.
1258, voilà, à Bagdad.
La saccage de Bagdad.
Oui, oui.
Le 10 février, dit-on.
Ah, ça, je ne sais pas. Et il y a des champs de lave partout. Entre la Mecque et Médine, il y a ce chaos basaltique absolument énorme, infranchissable. Il y a ces cônes volcaniques partout. Il y a des tremblements de terre. Donc, les phénomènes sismiques sont très, très bien connus en Arabie occidentale. Bon. Et donc, il y a une vision, je dirais, sismique, de catastrophe sismique qui se met en place dans le Coran en disant « si vous vous conduisez mal, voilà ce qui va vous arriver ». Et puis, à côté de cette face négative, va apparaître très vite la face positive du Dieu créateur. Dieu vous a créé pour que vous puissiez vivre. Autrement dit, ce que le Coran crée, ce qui est créé en tout premier dans le Coran, ça n'est pas un homme unique. C'est une société. C'est une société au travail dans les meilleures conditions possibles, conditions qui sont garanties par le Dieu créateur. C'est ça qui est créé. Donc, il y a la face négative, si vous vous conduisez mal, voilà ce qui vous est arrivé, et il y a la face positive, si vous êtes dans la voie, dans l'alliance du Dieu créateur, vous avez un avenir. Vos familles ont un avenir. Vous aurez des fils en nombre, vous aurez des troupeaux multipliés, et vous aurez de la pluie. Alors, le ciel, il sert à quoi ? Le ciel, il est au-dessus de la terre, et il est conçu comme un édifice construit. Un édifice construit avec des réservoirs. Et ces réservoirs, eh bien, ils contiennent la pluie. Parce que la mer Rouge n'est pas loin, mais la mer Rouge sert à rien aux Mécois. Hein, ce ne sont pas des navigateurs. Je me rappelle qu'on m'a dit une fois, mais parce que je disais que les Mécois peuvent pas aller en Éthiopie, mais on m'a dit, mais ils vont à Jeddah et ils prennent un bateau. Sauf que dans la mer Rouge, on navigue pas comme ça et on n'a pas de vedettes rapides au 7e siècle. Donc les Mécois ne sont pas des navigateurs.
Et on a des squales et des requins.
Et on a des requins partout en plus. Bon, avec un régime des vents très compliqué. Bon. Donc, la mer Rouge ne se navigue pas à partir de Jeddah. Donc, les Mécois, ils sont dans un environnement terrestre extrêmement difficile et ce que Dieu leur promet, c'est les conditions de vie optimales en fonction des difficultés de ce milieu.
Oui, et alors l'idée que Dieu a créé l'homme ou les hommes ou cette société pour l'adorer et pour se détourner des idoles est instrumentée ou instrumentalisée pour le bien de la dite société ou c'est, j'allais dire, moi aussi j'utilise ce terme, il y aurait un narcissisme divin qui demande à l'homme de l'adorer?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est, c'est une société très pragmatique. Alors, quand on parle des idoles, là encore, vous avez une intervention de la tradition postérieure où on voit Mohammed détruisant, quand il s'empare de sa cité après en avoir été exilé, on le voit abattant 360 idoles. Le terme qui est utilisé, c'est le terme sanam, qui vient de l'hébreu tsalem. Et dans le Coran, ce terme est uniquement cible uniquement Abraham.
Oui, c'est pour.
N'est jamais utilisé pour ce qui concerne la Mecque. Mon hypothèse, elle est tout autre. La Mecque vivait grâce à son point d'eau et son point d'eau était sous la coupe d'un dieu protecteur, d'un allié divin masculin. Parce que tout ce qui est humide, tout ce qui est, je dirais le germe procréatif est du masculin en arabe et non pas du féminin. Ainsi, la lumière froide de la lune, c'est du masculin. La lune est un astre masculin alors que le soleil est un astre féminin. Et donc, je dirais que l'obsession première du Coran, on peut parler d'obsession, c'est rendez culte à celui qui fait vivre votre cité, à ce dieu masculin protecteur. Par contre, les Mécois, étant donné qu'ils devaient se déplacer, avaient des protectrices extérieures à leur cité. Et quand on regarde ce qui nous est dit du site où se trouvaient ces déesses protectrices, on les trouve où ? On les trouve sur les pistes aux alentours de la Mecque. Il y en a une, l'Uzza, qui est sur la piste qui conduit vers la grande voie nord-sud. Parce que la Mecque n'est pas sur une voie caravanière, contrairement à ce qu'on nous raconte partout. Elle est à l'ouest de la voie caravanière, à 3 nuits de marche. Il y en a une qui était à l'est. Il y en a une qui était dans la montagne de Ta'if, là où les Mécois allaient s'approvisionner, à 1800 mètres d'altitude. Et l'autre se trouvait en direction de la côte, sur la route qui va de la Mecque vers la côte et qui revient vers Médine. Donc c'était des déesses extérieures, c'était des déesses des lieux de chaleur, je dirais. Et donc, ce que le Coran propose, c'est de dire, vous avez un dieu protecteur, qui est le dieu du puits, et c'est lui qui vous protège également sur les pistes. Autrement dit, le Coran propose une alliance unique, alors que les hommes de la Mecque comptaient sur des alliances multiples, le dieu intérieur et les déesses extérieures. Il n'y a pas d'idole là-dedans. L'idolâtrie, c'est quelque chose qu'on ajoute après, je dirais, par comparaison avec Abraham. C'est comme si on disait, ben, voyez, Mohammed, il a fait mieux qu'Abraham, il est encore plus fort contre l'idolâtrie.
Dans le récit hagiographique postérieur, on a ajouté cette idée que lors de la prise de la Mecque, sans effusion de sang, puis ça a donné lieu à un compromis et à une négociation.
Absolument.
On a, le prophète Mohammed a détruit une à une ses idoles tout en disant la vérité est venue et l'erreur disparaît et l'erreur est encline à disparaître.
Il n'y a aucune trace de cela dans le Coran. Absolument aucune.
Le verset coranique existe, mais la trace...
Oui, le fait qu'on soit, on s'éloigne de l'erreur, bien sûr, mais ça, c'est un refrain dans le Coran, ça n'arrête pas de revenir.
Dit que la vérité est venue et que l'erreur est partie...
Là, c'est la guidance.
C'est la guidance. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Jacqueline Chabi. Jacqueline Chabi est agrégée d'arabe et doctoresse lettres et professeur honoraire des universités. Nous parlons aujourd'hui à la fois de la création dans le Coran. On ne peut même pas parler d'une cosmogonie puisque la création est récurrente ou itérative de chaque instant. Et surtout d'Adam qui n'occupe pas cette place primordial ou en tout cas ce n'est pas cet homme originel, du moins c'est ce que vous nous dites Jacqueline Chabi dans le récit coranique. Pour cette dernière partie avec vous Jacqueline Chabi, revenons donc à cette notion de création récurrente ou itérative ou renouvelée, contrairement à l'idée d'une création donnée une bonne fois pour toutes.
Alors la création dans le Coran, c'est donc la création d'une société active. C'est une création collective. Parce que dans le monde tribal, tout était vu collectivement. On ne vit pas à travers les individus, on vit à travers les groupes. Donc Dieu crée une société composite immédiatement, composée de clans, mais doit assurer leur survie. Pour assurer leur survie, il faut qu'il y ait des moyens de subsistance. Ces moyens de subsistance, étant donné les caractéristiques de la Mecque, sont d'abord représentés par la pluie qui est dans les réservoirs célestes et dont Dieu tient le robinet, si on peut dire. Et donc, il distribue la pluie où il veut, quand il le veut, et chacun recevra la pluie, mais pour garder un aspect réaliste à cela, puisque en Arabie, on ne sait jamais quand la pluie va tomber. Enfin, on en a une petite idée. Mais on n'est pas sûr, mais surtout on ne sait pas où elle va tomber. Les tribus bédouines, par exemple, ont des jeunes garçons qui chassent les nuages. C'est-à-dire qu'ils montent sur un chameau rapide ou une chamelle et ils suivent un nuage en essayant de voir où la pluie va tomber. Parce que 8 jours après, le pâturage aura poussé et ils reviennent dire à la tribu « Eh bien là, la pluie, elle est tombée là. Donc vous amenez les chameaux tout de suite avant que le soleil ne dessèche tout. Bon. » Donc, il y a ce besoin d'avoir un Dieu en alerte et un Dieu qui répond aux besoins. Donc, cela se traduit dans le Coran par une représentation de la création utile. La création utile, c'est la création végétale. Et c'est la création procréative pour les humains. Les humains doivent avoir des enfants, les femmes doivent être fertiles, et la terre également doit, si elle meurt sous le soleil, elle doit revivre. Et c'est très intéressant de remarquer cela parce que parmi les éléments qui sont mis en scène dans le Coran de façon récurrente, il y a d'abord l'eau. L'eau qui produit le végétal, mais aussi, je dirais, l'eau de l'homme. C'est-à-dire l'eau séminale, l'eau du sperme qui permet une procréation réussie. L'eau du sperme qui est également l'eau du sperme des animaux. Donc tout ce qui est vivant est lié à l'eau. Et il faut que ce soit absolument efficace.
Le Coran dit « Nous avons fait de toute chose, de l'eau toute chose vivante ».
Mais alors, il ne faut pas croire, comme chez certains apologètes d'aujourd'hui, que le monde est créé à partir de l'eau. L'eau en question, quand il s'agit de la procréation, c'est le sperme, tout simplement. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant que je ne m'attendais pas tellement à trouver à propos de la résurrection. Parce que la résurrection, c'est également une thématique empruntée à la Bible. Mais comment est-ce que la résurrection est présentée dans le Coran? Eh bien, elle est présentée à partir de la représentation de la terre sèche. La terre sèche, la poussière, en arabe, c'est le tourab. Et alors, les contemporains de Mohammed à la Mecque lui demandent « Mais comment pourrions-nous revivre alors que nous sommes tourab, poussière, et eau, os. Hein. Et le Coran répond, eh bien, vous pourrez revivre de la même façon que la terre sèche, desséchée par le soleil, quand elle reçoit la pluie, revit. Et vous avez cette image extrêmement forte et parlante pour les hommes d'Arabie de la terre morte, qui est la terre desséchée, qui redevient vivante quand elle est quand la pluie tombe sur elle. Et donc je dirais que la résurrection dans le Coran ne reproduit pas tant le modèle biblique que le modèle local, de la régénération de la végétation. C'est le modèle végétal qui justifie la résurrection dans le Coran. Donc l'idée de résurrection est empruntée, mais les moyens de la résurrection sont locaux.
Et différent. Que répondez-vous, Jacqueline Chabie, à ceux qui disent de nos jours, mais sans vouloir commettre ce paracronisme ou cet anachronisme, que la vision de la création du Coran est une vision plutôt naïve? Qu'est-ce que c'est que ce ciel avec des réservoirs? Le terme arabe, khazain, khazina, c'est à la fois armoire,
réservoir. C'est les magasins du ciel.
Ce sont les magasins du ciel ou les armoires du ciel ou les réservoirs du ciel, d'une part. Et pourtant, dans d'autres passages, Dieu parlant, disant que cette création n'est pas vaine. Nous n'avons pas créé ceci en vain. Enfin, le verset coranique, je crois, 190 de la sourate 3, qui dit « Certes, dans la création des cieux et de la terre, tiens, c'est au pluriel, des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela. » Disons, Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain, gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. Donc la création n'est pas vaine. À supposer que nous eussions voulu agir de la sorte, nous n'avons pas cherché un divertissement, dit toujours l'écrit coranique. Et d'autres disent, non, elle n'est pas vaine, certes, mais telle qu'on l'aperçoit maintenant, elle est naïve. Quelle est votre réaction?
Je dirais que tous les textes sacrés s'accordent à un terrain et que c'est porter un jugement de valeur mal approprié que de considérer qu'une représentation ou qu'un imaginaire est vain. Un imaginaire est toujours utile. Et dans la société d'Arabie, c'était le pragmatisme, c'était l'obsession de la survie qui prévalait. On aurait tort de considérer cela comme de la naïveté. Ce sont des urgences vitales qui étaient en jeu. Et donc, au contraire, je vois, moi, dans ces images, une puissance évocatoire extraordinaire. Mais cette puissance évocatoire, qui était liée de façon si étroite à ce terrain, va évidemment disparaître dans un terrain qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes. Et on va trouver d'autres motivations au texte. On va le spiritualiser d'une autre façon. Et je dirais qu'à chaque époque, il y a ces besoins auxquels il faut répondre. Donc on n'a pas apporté de jugement de valeur là-dessus. Je pense que le texte coranique a une puissance dont il est important de reconnaître la portée originale pour ensuite passer à autre chose. Parce qu'on a d'autres besoins, on a d'autres attentes, on est dans d'autres sociétés. Et donc il faut respecter la valeur de ces images qui ont eu cette puissance de vie que malheureusement aujourd'hui on a trop souvent oublié dans les délires contemporains. Et les musulmans d'aujourd'hui auraient intérêt à comprendre que le Coran est un livre de vie et pas un livre de mort.
Et qu'il devait frapper avant tout l'entendement et l'intelligence et la psyché du peuple récipiendaire premier.
Absolument. Chaque peuple a des attentes et les textes sacrés sont interprétés, ont des lectures successives. Je ne veux pas dire qu'on doive se remettre à vivre comme en Arabie au 7e siècle, mais chaque époque a la responsabilité de produire une lecture qui corresponde aux enjeux de son temps et aux valeurs de son temps et à la vertu de son temps.
Raison de plus pour ne pas sacraliser des bribes de l'histoire ou de larges pans et de considérer que ces récits sont atemporels ou extraits hors contexte.
Un texte sacré n'est pas intemporel. Un texte sacré est un texte qui voyage. Il voyage avec ses mots et, dans le cas du Coran, ses mots étaient restés les mêmes depuis le 7e siècle. Le Coran avait été peu traduit avant les âges classiques. Mais ce qui ne voyage pas, c'est le sens qu'on donne aux mots. Et il faut, les croyants de toute religion, il faut qu'ils se rendent compte que leurs textes sacrés ont des lectures successives et que l'historien est là pour leur, non pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais pour leur dire votre lecture aujourd'hui, elle est celle-là, bien sûr. Mais ne croyez pas que vous reproduisez la lecture du passé. Vous n'êtes pas des hommes du passé. Les hommes du passé ont eu leur lecture en fonction de leurs enjeux et vous n'êtes pas eux.
Et d'autant plus qu'à l'époque, c'était aussi l'art incantatoire. On déclamait de la poésie. Il y avait ces passages coraniques qui sont assonancés et qui devaient frapper, encore une fois, l'imaginaire.
Alors, il n'y avait pas d'écrit à l'époque, on n'écrivait pas, on disait, on proclamait. Et effectivement, le Coran est un texte oralisé qu'on se plaît à réciter, qu'on se plaît à répéter comme un beau discours tribal, comme de la poésie tribale.
Ben merci infiniment, merci beaucoup chère Jacqueline Chabi. C'était Question d'Islam. Vous nous avez parlé aujourd'hui d'Adam et de la création dans le Coran. C'était passionnant et vous nous avez édifiés. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est notre amie Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manon Houssin et la réalisation est assurée par l'ami Franck Lilin.
감대 텐단대와 말레이 중에 제레세와 딘세이 가소이 제베 시대파도 띵그로치